Extrait numéro 21, chapitre 27, Élisabeth et l'estoc. Nous en étions à l'exil du beau grenadier, n'est-ce pas ? C'était un homme d'un si grand mérite qu'un seul successeur ne put le faire oublier et que force fut à la princesse d'en prendre deux. Ces deux successeurs de Choubine furent Alexis Razoumovski et Michel Voronzov. Disons que c'étaient ces deux hommes qui jouèrent un si grand rôle sous le règne d'Élisabeth. Un paysan de la petite Russie, Grégoire Razoumovski, avait eu deux fils, Alexis et Cyril. Alexis avait une belle voix, il parvint à être chantre de la chapelle impériale après avoir chanté dans les chœurs d'une petite ville de sa province. La princesse Élisabeth remarqua la voix, puis l'homme. Et comme ce n'était point un de ces ténors douteux que le pape réclame pour chanter le Miserere dans la chapelle Sixtine, mais une belle voix de basse, elle le prit au service de sa chapelle particulière. Quant à Voronzov, il était d'une bonne famille, quoiqu'il ne fût point de ces illustres Voronzov qui furent si célèbres au XVe et au XVIe siècle. L'extinction de cette famille de boyards eut lieu en 1576 et se trouve constatée au livre de velours. Non, le premier aïeul authentique de ces seconds Voronzov, plus célèbre aujourd'hui que les premiers, était mort en 1678 au siège de Tchigrine en Petite-Russie. Son fils, Hilarion Voronzov, eut trois fils, Roman Michel et Jean. Ce fut Michel que la princesse Élisabeth adjoignit à Razoumovski, non pas comme chantre de sa chapelle, mais comme simple enfant de chœur. Lisez chœur, C-O-E-U-R. En effet, Razoumovski était né en 1709 et par conséquent était du même âge que la princesse, tandis que Michel Voronzov avait 23 ou 24 ans à peine. À ces deux favoris s'en joignit un troisième qu'il ne faut pas compter, attendu que c'était le médecin particulier de la bonne princesse. Il se nommait Hermann l'estoc. Ah, celui-là, vous le connaissez. Mon confrère, M. Scribe, a fait sur lui, avec la sévérité historique qui lui est habituelle, un opéra comique qui a eu un fort succès. Cependant, il ne faudrait peut-être pas juger seulement l'estoc par l'opéra de M. Scribe. Mieux vaudrait le juger sur les dépêches des ambassadeurs qui se trouvaient à la cour de Russie lorsqu'il y fit la révolution de 1741. C'était le fils d'un barbier. Les fils de barbier, à cette époque, naissaient la lancette à la main. Lorsqu'on sait saigner, on est plus près d'être chirurgien que barbier. L'estoc se fit chirurgien, partit pour Saint-Pétersbourg et parvint à entrer dans la maison de la princesse Élisabeth. Bonne maison, ma foi, tout le monde voulait en être. L'estoc n'en fut pas plus tôt qu'il songea à faire de la princesse une impératrice. Ce n'était pas bien difficile. La princesse représentait le vieux parti russe. La régente et son mari vivaient dans la plus grande mésintelligence. La favorite, Mademoiselle Mengden, était toute puissante et l'on cherchait, sans la trouver ou en la trouvant dans une singulière cause, la raison de cette amitié excessive de la régente Anne de Mecklembourg pour une femme. Munich, la véritable épée de ce trône chancelant, avait été écartée. Ostermann, qui eût dû en être l'œil, avait la goutte et la plupart du temps dirigeait la politique de son lit. D'ailleurs, la régente, si jalouse de son autorité qu'elle n'en cédait pas une parcelle à son mari, la régente, après avoir renvoyé Munich, n'eût point été fâchée de renvoyer Ostermann. Mademoiselle Mengden, qui remplaçait si bien son mari, ne pouvait-elle pas remplacer aussi le premier ministre et le chancelier ? Au reste, un passage d'une dépêche de M. Finch, ministre d'Angleterre, donnera une idée des sentiments du parti russe, sentiments qui aujourd'hui, après 120 ans écoulés, sont absolument les mêmes. entre guillemets, les nobles qui ont quelque chose à perdre sont pour la plupart favorables à ce qui est et suivent le courant. Un grand nombre d'entre eux sont russes invétérés et la violence et la force peuvent seules les empêcher de revenir à leurs anciennes mœurs. Il n'y a pas un d'entre eux qui ne souhaite voir Saint-Pétersbourg au fond de la mer et toutes les provinces conquises au diable afin de pouvoir retourner à Moscou où, étant dans le voisinage de leur terre, ils pourraient vivre dans une plus grande splendeur et avec moins de dépenses. Ils ne veulent pas avoir rien à démêler avec l'Europe. Ils haïssent les étrangers. Tout au plus voudraient-ils les employer dans la guerre et ensuite se débarrasser d'eux. Ils ont en égale abomination les voyages sur mer et préféreraient être envoyés en Sibérie, dans les endroits les plus horribles et les plus reculés, plutôt qu'à bord d'une flotte. Le clergé a beaucoup d'influence et l'on peut juger à certains indices qu'il donnera des inquiétudes et des embarras au gouvernement présent. Voilà l'opinion politique de M. Finch, ministre d'Angleterre. Maintenant, voulez-vous connaître son opinion morale ? Elle est concise et nette. Entre guillemets, je ne connais personne ici qui, dans un autre pays, passa pour un homme médiocrement honnête. Et il signait le digne puritain. C'est sur cette société-là qu'allait opérer le chirurgien Lestock. En général, les princesses du caractère d'Élisabeth sont sympathiques au peuple. Chez la princesse, on excuse facilement les faiblesses de la femme. Élisabeth s'était fait des amis parmi les officiers et même parmi les soldats, qu'elle abordait toujours avec un visage riant et la main ouverte. Lestock la poussait fort à cette popularité militaire. Il avait, en outre, de fréquentes entrevues avec notre ministre, Monsieur de la Chétardie. Ces entrevues furent dénoncées à son gouvernement par ce digne Monsieur Finch, qui jouait vraiment le rôle de Diogène à Saint-Pétersbourg et qui, malgré sa lanterne diplomatique, n'y pouvait trouver un honnête homme. Il écrivait le 21 juin 1741, c'est-à-dire presque à la veille de la catastrophe qui renversa la régente, son mari et le petit empereur, il écrivait, disons-nous, entre guillemets, « J'ai fait diverses communications au comte Ostermann touchant les envoyés de France et de Suède. Il a joué l'ignorant. C'est son habitude de se tenir sur la réserve dans les circonstances difficiles. » C'est ainsi, par exemple, qu'il avait la goutte à la main droite lorsque, à la mort de Pierre II, il dut signer le document qui limitait le pouvoir de son successeur. C'est un pilote de beau temps qui se cache dans les écoutilles pendant la tempête. Il se met toujours à l'écart lorsque le gouvernement vacille. Monsieur Finch s'ouvrit de ses inquiétudes au prince de Brunswick. De son côté, le prince de Brunswick savait que l'ambassadeur de France se rendait souvent la nuit et, déguisé, chez la princesse. Il se promettait, si la conduite de la princesse devenait de plus en plus équivoque, de l'enfermer dans un couvent, entre guillemets, ce qui, dit toujours le judicieux M. Finch, pourrait être un expédient dangereux, la princesse n'ayant aucune disposition à la vie religieuse et étant extrêmement aimée et populaire. Lestock, instruit de cette disposition, jugea qu'il était temps d'agir. C'était un homme qui avait toutes sortes de talents que Lestock. Non seulement il faisait de la médecine et de la politique, mais encore il dessinait dans ses moments perdus. Il fit un grand et beau dessin qu'il présenta à Élisabeth. Ce dessin était double. D'un côté, il avait représenté la princesse sur le trône de Russie, avec le sceptre à la main et la couronne des tsars sur la tête, et lui sur les marches de ce trône avec le grand cordon de Saint-André en sautoir. De l'autre côté, il avait représenté la princesse la tête rasée et lui sur une roue. Puis au bas, il avait écrit « Aujourd'hui l'un, ou demain l'autre. Vous voyez que la concision était le mérite des hommes politiques de cette époque. Élisabeth se décida. La nuit suivante fut fixée pour l'exécution de ce grand dessein. C'était la nuit du 24 au 25 novembre 1741. À minuit, l'impératrice s'agenouilla devant une image de la Vierge et pria. Puis, elle se passa au cou le cordon de Sainte-Catherine, fondation de Pierre Ier, à propos de la délivrance miraculeuse de son armée cernée par les Turcs. Lestoc et Michel Voronzoff montèrent derrière son traîneau. Tous trois se rendirent à la caserne des gardes du régiment de Préobrajenski. Vous vous le rappelez, c'était le premier régiment régulier fondé par le tsar Pierre. Là, les amis qu'elle s'était faits attirèrent bientôt à leur partie 300 grenadiers. « Amis, leur dit Élisabeth, vous savez de qui je suis fille, suivez-moi. »« Nous sommes prêts, répondirent-ils, nous les tuerons tous. » C'était plus que n'en demandait Élisabeth. Elle leur recommanda, au contraire, de ne tuer personne et marcha sur le palais d'hiver. Les 300 grenadiers la suivaient, fusil chargé, la baïonnette au bout du fusil. Au premier corps de garde, un tambour battit l'alarme, mais la caisse fut à l'instant crevée d'un coup de couteau. Qui donna cet habile coup de couteau ? Fût-ce Élisabeth, fût-ce Lestoc, tous deux le réclamèrent. Nous sommes tentés de croire que ce fut Lestoc, habitué à se servir du bistouri et de la lancette. D'ailleurs, où l'impératrice eût-elle pris un couteau en ce moment ? Le tambour se tut, le corps de garde fut pris, les soldats se réunirent à leurs camarades, on entra dans le palais d'hiver sans éprouver aucune résistance. À la porte du petit empereur seulement, la sentinelle abaissa sur les conjurés sa baïonnette. « Malheureux !» lui cria Lestoc. « Que fais-tu là ? Demande ta grâce à ton impératrice !» La sentinelle tomba à genoux. Le duc et la duchesse de Brunswick furent arrêtés dans leur lit, comme ils avaient fait arrêter le duc et la duchesse de Courlande. Quant au petit Ivan, éveillé en sursaut dans son berceau impérial et se voyant entouré de soldats, il se prit à pleurer. Pauvre victime dont le supplice devait durer 21 ans, sa nourrice accourut, le prit dans ses bras, mais ses caresses presque maternelles ne purent le calmer. On emporta le père, la mère, l'enfant dans le palais même d'Élisabeth. La même nuit, on arrêta Munich, Ostermann et quelques-uns de ceux qui avaient concouru au renversement de Birène et à l'élévation du jeune Ivan. 3 jours après, Élisabeth déclara que la princesse Anne, son époux et leur fils, n'ayant aucun droit au trône de Russie, ils seraient renvoyés en Allemagne. En attendant, elle les fit enfermer à la forteresse de Riga, d'où ils passèrent au fort de Dunamonde, puis à Kolmogory, puis à Schlüsselbourg, où l'enfant arriva orphelin. Dans le trajet, Anne était morte, et le duc de Brunswick, que son incapacité rendait peu à craindre, avait été mis en liberté, ou à peu près. Lestoc reçut une pension de 7000 roubles, 28 000 francs, par an. Il fut nommé comte, conseiller intime de l'impératrice, resta son médecin ordinaire et fut gratifié du portrait orné de diamants de celle qu'il avait faite impératrice. La garniture valait 80 000 francs. Voronzoff fut nommé comte et entra au ministère. Razumovski fut nommé comte, grand veneur, eut le cordon de Saint-André et plus tard reçut le grade de feld-maréchal. Son frère Cyril fut à 22 ans nommé hetman des Cosaques, monsieur de la Chétardie devint le directeur de la politique et la dirigea au profit de la France. Schwartz, un musicien allemand qui avait accompagné l'impératrice dans son expédition nocturne, fut récompensé en argent. les 300 grenadiers formèrent une compagnie de gardes du corps dont les simples soldats eurent le grade de lieutenant, les caporaux et les sergents, ceux de capitaine et de major. Les 6 officiers qui avaient débauché les autres furent faits lieutenant-colonels. L'impératrice se nomma capitaine dans la compagnie et dans certaines circonstances emporta l'uniforme. Élisabeth, nous l'avons dit, représentait le vieux parti russe. La première exigence du parti que représentait l'impératrice fut l'expulsion des étrangers. Ces étrangers, c'était l'instruction, la science, les arts, la guerre. On fit le procès de Munich, un des plus grands généraux de l'époque, le procès d'Ostermann, un des plus grands politiques. Ils furent condamnés à être écartelés. Le 8 février 1742, les condamnés furent conduits à l'échafaud. C'étaient Ostermann, Munich, Golovkin, Mengden et Löwenwold. Ces 3 derniers devaient être seulement décapités. Ils arrivèrent sur le lieu du supplice à 10h du matin. Tous s'étaient laissés couper la barbe, à l'exception de Munich, qui s'était fait poudrer et friser comme d'habitude. Depuis le commencement du procès, il n'avait pas témoigné la moindre crainte et durant tout le trajet de la citadelle à l'échafaud, il avait plaisanté avec ses gardes. Ostermann avait été apporté sur une chaise. Il était incapable de marcher. C'était lui que l'impératrice haïssait le plus. Il le savait et ne s'attendait à aucune grâce. Cependant, en jetant un regard sur l'échafaud, il n'y vit qu'un billot auprès duquel l'exécuteur attendait. On lui lut son acte d'accusation. Par un violent effort de volonté, il l'entendit debout et avec une contenance ferme et attentive. La sentence, comme nous l'avons dit, le condamnait à périr sur la roue, mais la clémence de l'impératrice avait changé cette peine en celle de décapitation. Il fit un mouvement de tête et d'une voix calme. « Vous remercierez pour moi l'impératrice, » dit-il. Des soldats le prirent alors et le traînèrent au billot. Le bourreau lui enleva son bonnet et sa perruque, puis après l'avoir dépouillé de la robe de chambre dont il était vêtu et déboutonnant le col de sa chemise, « À genoux et posez votre tête sur le billot, » lui dit-il. Ostermann obéit. L'exécuteur leva son sabre, mais au lieu de frapper, il le tint suspendu au-dessus de la tête du patient. En ce moment, le greffier reprit sa lecture et annonça à Ostermann que Sa Majesté lui faisait grâce de la vie et le condamnait seulement à un exil éternel. Ostermann fit une inclination de tête, se releva et dit au bourreau « Alors je vous prie, rendez-moi ma perruque et mon bonnet. » Il les remit sur sa tête, reboutonna sans dire autre chose le col de sa chemise, se revêtit de sa robe de chambre et descendit avec un visage aussi calme qu'il était monté. Comme pour Ostermann, la peine de Munich et celle de ses 3 compagnons furent commuées en un exil éternel. Munich fut envoyé à Pétim, en Sibérie, dans la même maison qui avait été élevée sur ses plans pour Biren. Ostermann fut interné à Beresov, où Menchikov était mort, et y mourut lui-même 7 ans après sa condamnation, en 1747. Le beau grenadier Choubine fut cherché de tous côtés. Un homme n'est pas facile à trouver lorsqu'il est perdu sur 700 lieues de terrain. Enfin, après 2 ans de persistance, le hasard le mit en face de ceux qui le cherchaient. Élisabeth ne lui rendit pas son amour, mais elle lui donna un rang dans ses gardes en lui conférant le grade et le titre de major général. Avec la meilleure volonté du monde, l'impératrice, comme nous allons le voir tout à l'heure, n'avait plus de place pour Choubine. Probablement aussi, le beau grenadier, guéri de l'ambition par 3 ou 4 années de Sibérie, n'insista-t-il pas beaucoup? Car s'il eût insisté, la bonne impératrice qui était tout cœur, ou plutôt tout corps, n'aurait pas eu la force de lui résister. Elle ne résista point à Razoumovski, lequel, en sa qualité d'ancien chantre de chapelle, avait des mœurs et qui insista pour qu'un mariage légitimât leur liaison. L'impératrice, qui du temps où elle était princesse avait refusé de se marier pour rester libre, se débattit quelque temps sous la pression. Enfin, pour ne pas faire trop de chagrin à Razoumovski, qu'elle aimait tendrement et qu'elle aima toujours, elle y consentit. Mais comme impératrice, elle fit ses conditions. Nous n'avons pas le sous-saint privé où ces conditions sont établies, mais on peut deviner par la suite du règne d'Élisabeth et par la liberté dont elle jouit quels étaient les privilèges qu'elle s'était réservés. Au reste, rien de caché sous ce rapport pour le public. La célébration du mariage eut lieu en l'église de Perovo, près de Moscou, et Élisabeth eut de ce seul mariage 5 enfants qui ne vécurent pas. Nous disons de ce seul mariage parce que, en dehors de ce mariage, elle eut 4 autres enfants que la bonne impératrice ne cacha guère plus qu'elle ne cachait ceux qu'elle pouvait regarder comme légitimes. Quant à Razoumovski, au lieu d'abuser de sa position comme Birène, il se tint toujours, soit modestie, soit insouciance, en dehors du pouvoir, laissant Yvon Chouvalov et Bestouchev faire la politique comme ils l'entendaient. Il y a plus. Longtemps après la mort d'Élisabeth, et lorsque Grégoire Orloff, dont les remords, s'il en avait, devaient être moins innocents que ceux de Razoumovski, tourmentait Catherine pour qu'elle suivît l'exemple d'Élisabeth, Catherine, lasse de lutter, y consentit, et un légiste fut chargé d'aller demander à Razoumovski les actes qui avaient consacré son union avec Élisabeth afin que le mariage de Catherine et de Grégoire Orloff s'accomplit dans les mêmes conditions et avec les mêmes formes. Le légiste se rendit chez le vieux Razoumovski et lui exposa le but de sa mission. Razoumovski réfléchit un instant, puis, sans rien dire, il se leva, alla à son secrétaire, l'ouvrit, en tira un coffret plein de papiers, prit les papiers dans le coffret, puis, toujours sans rien dire, alla les jeter dans la cheminée, resta les yeux fixés dessus, jusqu'à ce qu'ils fussent réduits en cendres. Et lorsqu'il n'en resta plus qu'une couche noire où couraient capricieusement quelques étincelles qui s'évanouissaient les unes après les autres et un peu de fumée se volatilisant de plus en plus, il se retourna vers l'envoyé de Catherine, ou plutôt vers celui d'Orloff. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire en demandant les papiers relatifs à mon mariage avec l'impératrice Élisabeth. Je n'ai jamais eu l'honneur d'être l'époux de Sa Majesté. » Catherine comprit le conseil et resta veuve. Maintenant, pour n'y pas revenir, disons tout de suite ce qu'il advint de celui qui avait fait toute cette révolution. Lestocq partagea d'abord avec notre ambassadeur, M. de la Chétardie, tout le pouvoir politique et donna d'excellents conseils à l'impératrice. Ce fut lui qui reconstitua le ministère et qui fit entrer Bestouchev à la place d'Osserman. Ce fut la cause de sa perte. Bestouchev était l'un de ces hommes qui mettent en pratique, chaque fois qu'ils en trouvent l'occasion, ce grand précepte d'un de nos philosophes modernes, l'ingratitude et l'indépendance du cœur. Disons quelques mots de cet homme qui, sous 3 règnes, joua un certain rôle politique à la cour des souverains de Russie. Bestouchev était né en 1693 à Moscou. Mais en 1712, il était entré au service de l'électeur de Hanovre, qui, devenu roi d'Angleterre, l'avait nommé ministre résident à Saint-Pétersbourg. En 1718, il était rentré au service de la Russie et avait été désigné par Pierre Ier pour accompagner à Mito sa fille aînée, la même qui fut depuis impératrice et qui épousa le duc de Courlande. Nommé ministre à Copenhague, Biren le rappela à lui pour lui donner la succession de Volkonski. Il aida fort à la régence du duc de Courlande, mais quand vint la chute de Biren, il fit volte-face et devint le principal témoin à charge du favori précipité. Biren, qui dans toute cette catastrophe dépassa toujours de la tête ceux qui disposaient de son sort, fut très digne et très noble à l'endroit de Bestouchef. Confronté avec lui, le duc déclara qu'il était prêt à avouer tout ce dont l'accusait son ancien ami, si Bestouchef osait répéter devant lui et en face de lui la déposition qu'il avait faite en arrière. Il prononça ces paroles d'un ton si solennel, fixa sur Bestouchef des regards si assurés, que celui-ci, courbé sous ce regard, plia les genoux et tomba aux pieds du duc en disant qu'il était obligé de demander pardon à Dieu, mais que tout était faux dans la confession qu'il avait faite. C'était ce même homme que Lestocq faisait la faute d'appeler au pouvoir. À peine y fut-il qu'il travailla à la ruine de son protecteur. Le premier malheur de Lestocq fut que M. de La Chétardie quitta Saint-Pétersbourg. Il revint en France avec 1 million que lui avait donné l'impératrice Élisabeth. 18 mois après avoir fait Élisabeth impératrice, Lestocq, accusé de trahison, traduit devant l'inquisiteur secret, était mis 3 fois à la torture et, tout brisé, envoyé en exil dans la petite ville d'Uglitch sur la Volga. Puis, comme c'était encore trop près de Saint-Pétersbourg, à Oustiouk Veliki, près d'Arkhangel. Quant à la pauvre impératrice, caractère faible et sensuel, elle passait sa vie dans les plaisirs et dans les transes. Chaque soir, il y avait orgie, car l'impératrice eût difficilement décidé lesquels elle préférait, des plaisirs de la table ou de ceux de l'amour. Pour que les uns ne nuisent pas aux autres, on soupait d'habitude dans la chambre à coucher de l'impératrice et, par surcroît de précaution, l'impératrice, sans corset et avec des robes faufilées et non cousues, s'asseyait près du favori du moment auquel l'excellent Razumovski eut le bon esprit de ne jamais chercher querelle. La coutume, nous dirons presque l'ordre, était de ne jamais laisser l'impératrice seule jusqu'au jour. Aussitôt qu'elle se trouvait seule dans la nuit, Élisabeth tremblait et jetait des cris de terreur. Elle savait par expérience que c'était pendant la nuit qu'avaient été tramées toutes les conspirations qui avaient renversé du trône des souverains de Russie. Elle fit chercher par tout le royaume un homme qui ne dormit point ou qui eut le sommeil si léger que le vol d'un moucheron le réveilla. On eut le bonheur de trouver cet homme, et par chance il était si laid qu'il put, sans que les plus mauvaises langues y trouvassent à redire, rester jour et nuit dans la chambre de l'impératrice. Comme on pourrait croire que j'ai été au-delà de la vérité dans ce que j'ai dit de l'impératrice Élisabeth, permettez-moi, cher lecteur, de mettre sous vos yeux ce fragment de dépêche de M. de Swart, ministre des États-Unis en 1757. Je n'ai pas besoin de vous dire que le brave Hollandais était révolté, entre guillemets. La société présente en Russie un effrayant tableau de licence, de désordre et une dissolution de tous les liens de la société civile. L'impératrice ne voit et n'entend que les Chouvalov. Elle ne s'enquiert de rien et continue sa manière de vivre accoutumée. Elle a littéralement abandonné l'empire au pillage. Jamais il n'y a eu en Russie un état de choses plus désordonné, plus dangereux et plus déplorable. Il n'y reste pas la moindre trace de bonne foi, d'honneur, de pudeur et de justice. Et maintenant, après ces deux chapitres d'histoire, que je n'ai pas eu le courage de supprimer, je vous l'avoue, passons à la deuxième légende de la forteresse.